Europe 1, le 22-22-30,
Julien Peers.
Bonsoir et bienvenue sur Europe 1, c'est le journal de la nuit, tout ce qui s'est passé aujourd'hui et tout ce qui se passera demain. C'est parti pour 30 minutes d'info. Il est 22h, vous êtes sur Europe 1.
C'était super aujourd'hui, on a plus soleil, on a en profité, beau, hein. Parce que demain on est confiné, on ne peut pas sortir. Mais enfin, on peut faire avec, hein, on n'a pas le choix.
Fini les longues balades sur la plage. Niçoises et Dunkerquois vont rester chez eux jusqu'à lundi. Le premier des deux week-ends de confinement a commencé. Confiner la capitale pendant 3 semaines n'est plus qu'une hypothèse face au tollé. Rétro-pédalage express de la mairie de Paris qui a un coupable tout trouvé. Son premier adjoint, fusible d'un coup politique raté. L'IGPN saisi après des propos homophobes tenus par un policier lors d'une interpellation. Affaire révélée grâce à une vidéo massivement partagée. 191 km sur une départementale, excès de vitesse décapant d'un octogénaire un peu trop pressé d'aller se faire vacciner contre le Covid. Dans ce journal également, Alexei Navalny transféré dans une colonie pénitentiaire dont la localisation est tenue secrète par le Kremlin. Et puis le foot, 27e journée de Ligue 1, le Stade Rennais affronte en ce moment l'OGC Nice, Stéphane Beignet.
C'est reparti Julien depuis 40 secondes, un but partout, Guiri a ouvert le score à la 18e minute sur pénalty pour Nice, égalisation rennaise, Terrier à la 39e.
A tout de suite Stéphane. La météo de demain, elle sera ensoleillée sur la moitié nord et plus mitigée sur le sud, nous dira Anissa Haddadi. La bourse de Paris, elle a clôturé sa semaine en nette baisse, moins 1,39% ce soir à 5703 points. Et tous les détails à venir avec Didier Hamo de boursier.com. L'interview écho dans 20 minutes. Malgré la pandémie, 2020 a été l'une des meilleures années depuis 10 ans pour la création d'emplois liés à des investissements étrangers en France. Pour en parler, Emmanuel Duteil reçoit ce soir Christophe Lecourtier, directeur général de Business France. Enfin, on découvrira ensemble les unes de vos journaux de demain.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
Mais avant de vous détailler tous ces titres, on a appris il y a une heure que Jacques-Henri Hérault n'est plus le président de l'Olympique de Marseille. Conclusion de longs mois de conflit avec les supporters. Jean-François Pérez, ce qui étonne, c'est le timing de cette annonce.
Oui, c'est le moins qu'on puisse dire, ça nous a tous surpris. Communiqué de presse qui tombe dans nos boîtes mail un vendredi soir à 20h45. Alors selon nos informations, tout s'est accéléré ces 48 dernières heures. C'est vrai que la situation était devenue intenable pour Jacques-Henri Hérault, avec notamment les associations de supporters et même les supporters en général à Marseille qui réclamaient sa démission. Il y avait des banderoles, des autocollants un petit peu partout dans la ville et dans la région. Voilà donc, c'est la fin d'un mandat de 4 ans et demi pour Jacques-Henri Hérault, qui d'ailleurs n'a même pas été remercié dans le communiqué de presse envoyé par les équipes de Franck McCourt. Côté positif, on peut dire qu'il aura eu pour lui une finale européenne en Ligue Europa en 2018 et puis pas mal d'initiatives dans le cœur de la cité. Côté négatif, j'allais dire à peu près tout le reste, hein, des résultats sportifs insuffisants, une personnalité clivante qui n'aura jamais donné l'illusion de vraiment bien connaître Marseille. Attention, ceci étant dit, il reste au conseil de surveillance du club, c'est bien spécifié dans le communiqué, mais ça reste un rôle éminemment symbolique désormais.
Jean-François, il est remplacé par qui, Jacques-Henri Hérault?
Par Pablo Longoria, qui est un très jeune dirigeant. Il a 34 ans, mais déjà un long parcours derrière lui en Angleterre, en Espagne ou encore en Italie. Il était arrivé il y a quelques mois à Marseille. D'ailleurs, c'est Jacques-Henri Hérault qui l'avait nommé au poste de Head of Football, comme on dit dans les milieux économiques. C'était le directeur sportif. C'est un Espagnol francophone qui est très connu dans le milieu du foot pour être un crack sur le marché des transferts. Notamment, il réalise des opérations assez étourdissantes de ce point de vue-là. Alors, sera-t-il le dirigeant qu'il faut à l'OM? Parce qu'être président, c'est autre chose. Sera-t-il simplement un président de transition ou le vrai personnage central du nouveau chapitre de l'ère McCourt qui s'ouvre? Sachez enfin, selon nos informations, Julien, que le propriétaire américain de l'Olympique de Marseille est attendu à Marseille dimanche ou lundi pour rencontrer les forces vives du club et de la ville, les supporters, le milieu économique et politique. Ce sera donc avec deux nouveaux porte-étendards, Pablo Longoria, le nouveau président, et Jorge Sampaoli, le technicien argentin, qui est officiellement l'entraîneur de l'OM depuis une heure.
Merci beaucoup Jean-François Pérez, chef du service des sports d'Europe 1.
Europe 1, Julien Peers.
Un samedi et un dimanche à la maison, enfermé à regarder le soleil briller derrière une fenêtre. Voilà donc ce que vont vivre les habitants de Dunkerque et de la Côte d'Azur. Le premier des deux week-ends de confinement a débuté ce soir. Interdiction de sortir, sauf dérogation ou motif impérieux. Et c'est un crève-cœur pour les Niçois que vous avez rencontrés cet après-midi, Frédéric Michel.
Effectivement, et avant de se confiner à la maison, ces deux copines niçoises ont profité une dernière fois de la plage.
C'était super aujourd'hui, on a plus soleil, on a profité, beau, hein. Parce que demain on est confiné, on ne peut pas sortir. Enfin, il faut faire avec, hein, on n'a pas le choix.
Dernier coup de pédale pour Kamel et son fils de 4 ans, un peu de vélo, ça fait du bien pour se défouler avant d'être confiné.
Il y a le soleil, ça tombe super bien pour profiter jusqu'à la dernière minute, jusqu'à 18h et on rentre à la maison.
Depuis 18h et jusqu'à lundi 6h du matin, toutes les plages de la ville de Nice sont fermées, ainsi que le trottoir sud de la promenade des Anglais, incompréhensible pour Jacques qui habite juste à côté.
Alors c'est une catastrophe, pour les Niçois c'est pas bien, regardez, il n'y a pas grand monde là, donc la distanciation elle est faite. Et bon, demain, je prendrai l'autre trottoir, parce que l'autre trottoir, c'est ouvert. Et on n'a qu'une heure, hein, demain. Pas trois heures que mon dernier confinement.
Une heure de sortie dans un rayon maximum de 5 km. Les habitants des Alpes-Maritimes peuvent aussi se déplacer pour des raisons médicales, promener leurs animaux de compagnie ou faire des courses. Ce coiffeur niçois, lui, a dû fermer sa boutique à 18h. Son commerce n'est pas essentiel.
Moi, je comprends. On est quand même dans une situation qui est assez délicate et il faut s'en sortir le plus vite possible. Il faut tous être solidaires, quoi. On rattrapera plus tard quand on aura plus de Covid.
Et dès ce soir, il y a eu les premiers contrôles et les premières verbalisations. La préfecture prévient, durant tout le week-end, policiers et gendarmes veilleront à la stricte application du confinement.
Frédéric Michel à Nice pour Europe 1. Voilà donc à quoi pourraient ressembler les futurs week-ends de 25 millions de Français, ceux qui vivent dans les 20 départements placés sous surveillance par le gouvernement. Une mesure dont ne veut pas la mairie de Paris. Je vous en parlais hier soir dans ce journal. Anne Hidalgo et ses équipes ont proposé une solution beaucoup plus radicale, un confinement strict de 3 semaines dans la capitale pour pouvoir ensuite tout rouvrir. L'idée a vite fait flop. Les élus d'opposition et ceux de la région n'ont pas manqué de faire remarquer que le virus ne s'arrête pas aux portes du périphérique. Et face au tollé, le premier adjoint à la mairie de Paris a dû se rendre à l'évidence. Ce qui était la veille une proposition ferme n'est plus qu'aujourd'hui une simple hypothèse pour Emmanuel Grégoire.
Ça n'a jamais été une demande de notre part, mais simplement une hypothèse que nous souhaitons mettre sur la table. Mais face à l'aggravation de la situation sanitaire, nous disons que la politique des demi-mesures qui consiste à compléter par séquence en rajoutant les difficultés aux difficultés sans résultat sanitaire probant, pose la question ou pas de l'arbitrage de la part de l'exécutif national sur un confinement plus dur.
Propos recueillis par Diane Berger pour Europe 1. Un rétro-pédalage, on l'a entendu, qui soulève quelques questions. Jean-Rémy Baudot, que se passe-t-il à l'hôtel de ville depuis 24 heures?
Eh bien, pour faire simple, disons que c'est un couac. Pour rappel, c'est bien Emmanuel Grégoire, hier soir, après la conférence de presse du Premier ministre, qui propose de confiner Paris 3 semaines. Quand on connaît la manière dont s'organise l'entourage d'Anne Hidalgo, il n'y a aucune chance pour qu'il ait pris la parole sans l'accord de la maire de Paris. Sauf que le sujet devient inflammable, il est jugé irréaliste d'un point de vue sanitaire, indécent politiquement vis-à-vis de la banlieue. Il faut donc faire marche arrière. Le Premier ministre en personne dénonce des fadaises. La politique est cruelle, c'est donc Emmanuel Grégoire seul qui se retrouve à assumer cette idée. Ce matin, un très proche d'Anne Hidalgo me confiait même « Il a fait une erreur d'appréciation, c'est une mauvaise traduction de l'état de réflexion de la maire ». Fin de citation. Le message est clair, Anne Hidalgo ne va pas endosser la polémique. Mais ce qui est intéressant, c'est que cet épisode parisien met en lumière la difficulté de mettre en place des restrictions sanitaires locales. Que ce soit à Nice, Dunkerque ou ailleurs, les élus locaux poussent leur doléance. C'est normal, parfois pour de bonnes raisons, parfois aussi pour ne pas avoir l'air de plier face au gouvernement. On se souvient de Marseille. Anne Hidalgo a certainement voulu apparaître comme la maire qui demande de la fermeté face à un exécutif qui hésite. C'est ce qu'on appelle un coup politique raté.
Merci Jean-Rémy Baudot du service politique d'Europe 1.
Europe Soir, Julien Pierce.
L'IGPN, la police des polices, saisie après les propos homophobes d'un policier. Cela s'est passé lundi, porte de la Chapelle à Paris. Et c'est une vidéo qui a permis de révéler les faits, Gladys Lafitte.
Oui, une vidéo de 40 secondes publiée hier après-midi sur Twitter et vue plus de 500 000 fois. Mais c'est lundi soir, vers 22h, qu'elle a été tournée. Les policiers intervenaient en fait pour un tapage, un clip qui était tourné dans le quartier. Et à leur arrivée, 15 personnes sont sur place, décrites comme hostiles, dont le jeune homme de la vidéo. Il se serait enfui lors du contrôle. C'est donc quand il est rattrapé que la scène commence. La vidéo est filmée par un riverain depuis une fenêtre. On voit donc la scène d'en haut. Le jeune homme est dos à un mur et deux policiers en uniforme le contrôlent. L'un des agents le bouscule et prononce plusieurs insultes homophobes de façon répétée. Des propos choquants pour Lucille Joma, vice-présidente de l'association SOS Homophobie.
C'était assez violent pour nous de voir tous ces termes employés contre quelqu'un qui est complètement démuni derrière. Les représentants de l'ordre sont censés être neutres dans leur façon d'interpeller les gens. Donc on attend qu'il y ait des sanctions par la suite, hein, qui sera mis en place contre ces policiers.
Alors d'autres associations de défense des droits LGBT ont annoncé un dépôt de plainte. Et de son côté, le préfet de police a saisi hier l'IGPN, la police des polices. Une enquête administrative va donc être menée, ainsi qu'une enquête judiciaire, puisque le parquet de Paris a aussi saisi l'IGPN pour injure publique à caractère homophobe.
Gladys Laffitte du service police-justice d'Europe 1. Un adolescent de 15 ans tué par balle cet après-midi à Bondy en Seine-Saint-Denis. Deux individus en scooter lui ont tiré dessus et pris la fuite. La piste d'un règlement de compte est privilégiée par la police. Une enquête pour homicide volontaire a été ouverte. Allez, un peu plus de légèreté maintenant, on en a besoin avec cette histoire qui nous vient d'Alsace. Nombre d'entre nous sont impatients de se faire vacciner, mais certains le sont un peu trop. 191 km/h au lieu de 110, voilà la vitesse ahurissante à laquelle a été contrôlé un conducteur hier sur une départementale. La suite, c'est le lieutenant Éric Lemoine de l'escadron sécurité routière du Bas-Rhin qui la raconte.
Lorsqu'il lui demande ses papiers, il se rend compte que ce monsieur, eh bien, il a déjà 88 ans, donc c'est déjà une première surprise. Et puis, la deuxième surprise, c'est comme d'habitude, hein, quand on rentre dans la conversation, il lui demande effectivement la raison hein, de cet excès pour essayer de comprendre. Et là, le monsieur leur indique que c'est pour aller prendre son vaccin Covid. Il leur explique qu'il avait pris du retard et que pour pallier ce retard, pour se faire absolument vacciner, il s'est permis d'accélérer sur cette voie départementale. Il a pu faire son vaccin, mais il a été pris en charge par quelqu'un d'autre puisque son véhicule a été bien évidemment immobilisé.
Propos recueillis par Marion Dubreuil pour Europe 1. À l'étranger, les États-Unis accusent le prince héritier d'Arabie Saoudite d'avoir validé l'assassinat du journaliste saoudien Jamal Khashoggi. Conclusion d'un rapport que viennent de rendre public les services de renseignement américains. Selon eux, Mohamed Ben Salman a approuvé l'opération au consulat d'Istanbul en 2018 au cours de laquelle le journaliste en exil a été tué. L'affaire avait provoqué une crise diplomatique majeure qui pourrait reprendre de plus belle. Washington annonce ce soir des restrictions de visa pour 76 dignitaires saoudiens. En Russie, l'inquiétude grandit au sujet d'Alexeï Navalny. Condamné à 2 ans et demi de prison, l'opposant au Kremlin a été extrait de sa cellule moscovite pour être transféré dans une colonie pénitentiaire. Sans que ses proches n'en soient informés, personne ne sait d'ailleurs où il se trouve exactement, Mathieu Bock.
Oui, même son avocat ne sait pas où il est. Les services pénitentiaires restent muets. On sait seulement que Navalny a quitté la prison moscovite dans laquelle il était détenu depuis son retour en Russie en janvier dernier. Ces colonies pénitentiaires sont des prisons très secrètes, éparpillées sur tout le territoire, généralement perdues en pleine campagne, loin de toute ville. L'éloignement est la clé de voûte de ce système carcéral puisque les prisonniers n'ont le droit qu'à 6 visites de 4 heures par an, c'est tout. L'administration pénitentiaire a précisé que Navalny pourra, s'il le souhaite, participer à des activités de production, je cite. Le travail des détenus y est souvent obligatoire, que ce soit dans la fabrication de meubles ou dans des ateliers de couture. Alexeï Navalny doit y passer 2 ans et demi. Les autorités ont précisé qu'il effectuerait sa sentence dans des conditions absolument normales, je cite encore une fois, une manière de faire taire les critiques envers ces prisons, régulièrement dénoncées pour leur violence par la presse et par les ONG.
Mathieu Bock, le foot sur le terrain, cette fois, 27e journée de Ligue 1 et ce match que l'on suit ce soir sur Europe 1, Rennes-Nice. Deux équipes en grande difficulté ces dernières semaines. Les Bretons n'ont pas gagné depuis la mi-janvier. Quant aux Niçois, ils restent sur 3 défaites consécutives. Voilà pour le contexte. Et sur le terrain, ça donne quoi, Stéphane Beignet ?
Eh bien, le but niçois, mais vraiment à l'instant. Le but niçois à l'instant. Alors, ils sont tous venus sur lui le féliciter parce qu'il a prolongé de la tête ce ballon. Les Niçois qui avaient ouvert le score par Guiri sur pénalty à la 18e minute. Terrier pour le Stade Rennais avait égalisé d'une magnifique frappe à la 39e. Et là, c'est le défenseur Dani Luke qui vient pour Nice en tout cas d'inscrire ce deuxième but 2-1 pour des Niçois qui restaient sur 3 défaites consécutives et qui sont en train de se donner un petit peu d'air ce soir ici au Roison de Parc et puis au classement également. 2-1 pour l'instant pour Nice, 59e minute dans cette partie.
Merci beaucoup Stéphane Beignet en direct du Roison de Parc pour Europe 1. On vous retrouve Stéphane dans quelques minutes à la fin de cette édition. En rugby, on ne connaît toujours pas la date du France-Écosse qui devait se jouer dimanche. En revanche, on sait que les Bleus vont devoir briller d'entrée pour la Coupe du Monde 2023 et pour cause, le match d'ouverture sera face aux All Blacks, une affiche de rêve pour lancer ce mondial qui se
déroulera en France. Attention toutefois à ne pas prendre un bouillon d'entrée. La dernière fois que les Bleus ont affronté les Néo-Zélandais en Coupe du Monde, c'était en 2015 et ça s'était terminé par une défaite cuisante des Français, 64-13. La météo, Anissa Haddadi, on va se lever demain sous les brouillards.
Oui, en particulier sur la Bretagne, le Cotentin, la Normandie, les Hauts-de-France, les Ardennes et même en Corse et sur la Côte d'Azur, effectivement, Julien, dans toutes ces régions. Nous aurons des brumes et des brouillards matinaux, nombreux, attention si vous devez prendre la route. Ces nuages bas, bonne nouvelle, vont se dissiper à la mi-journée. Dans la matinée, c'est sur la moitié sud que le ciel sera le plus couvert. Demain matin, en particulier sur le Massif central, sur la vallée du Rhône et sur les Pyrénées, avec des petites averses. Et puis le retour des flocons, demain, sur le nord de l'Auvergne et puis sur les Alpes en altitude à partir de 1200 mètres. Voilà, on aura des petites chutes de neige. Dans l'après-midi, le ciel va s'éclaircir sur quasiment tout le pays. Le soleil va reprendre le pouvoir, sauf en Auvergne, sur le Var et le Lyonnais. Là, nous aurons encore des nuages et peut-être quelques petites gouttes, voilà, des toutes petites averses dans l'après-midi. Les températures, elles baissent encore et surtout demain, c'est le retour des gelées matinales. On aura moins 1 degré, par exemple, dans le Cantal à Aurillac. 1 à 5 degrés sur la moitié nord du pays, 4 à 7 ailleurs. Allez, on ira jusqu'à 10 degrés au bord de la Méditerranée, mais ça reste quand même bien frais, bien plus frais que ces derniers jours. Dans l'après-midi, nous aurons 9 à 12 degrés sur la moitié nord, 5 à 8 degrés seulement en Auvergne et jusqu'à 16 degrés au bord de la Méditerranée.
Merci beaucoup Anissa Haddadi. Europe 1. Restez avec nous dans un instant, toutes les infos de la bourse. Top à Wall Street avec Didier Hamot de boursier.com, suivi de l'interview éco. Emmanuel Duteil reçoit ce soir Christophe Lecourtier, directeur général de Business France, l'organisme qui drague les investisseurs étrangers. A tout de suite sur Europe 1. 22h17 sur Europe 1, bienvenue à vous. Si vous venez de nous rejoindre, c'est l'heure de Top à Wall Street.
Retrouvez Top à Wall Street avec la qualité de la 5G Bouygues Télécom.
Toutes les infos de la bourse avec Didier Hamot de boursier.com. Bonsoir Didier.
Bonsoir Julien.
Wall Street termine la semaine sur un rebond des valeurs technologiques.
Oui, un marché américain coupé en deux, encore une fois, avec un rebond du Nasdaq, mais une baisse du Dow Jones. Le Dow Jones recule d'1,5%, 30 927 points, donc encore en baisse. Mais le Nasdaq, donc l'indice des valeurs de technologie, se reprend de 0,56%, 13 192 points. Il y avait eu un petit peu de casse hier hein, sur les valeurs techno, comme on dit. Certains fonds en profitent pour venir se replacer ce soir. On a des achats un peu opportunistes hein, sur Microsoft, plus 1,5%. Sur Apple, plus 0,2% à 121,26$. Amazon regagne 1,1%. Facebook, 1%. Google, plus 0,3%. En revanche, Tesla perd encore 1%. 675$ ce soir. Aux valeurs industrielles, donc, c'est beaucoup plus lourd. En particulier, le secteur aéronautique, toujours attaqué. Boeing, moins 2%. Raytheon, moins 1,8%. Le pétrole aussi recule. Le baril consolide à 61,60$. Il recule donc sur le WTI de l'ordre de 2,8%. Et ça donne le géant pétrolier Exxon en recul de 2,5% à 54,37$. C'est toujours assez calme sur les devises. L'euro revient à 1,2075 face au dollar.
La bourse de Paris, quant à elle, a fini la semaine en net repli, de retour aux alentours des 5700 points.
Oui, clair et net. Hein, moins 1,39%, une forte baisse sur le CAC 40, 5703 points exactement. Les dégagements ont porté sur quelques gros dossiers comme Casino, moins 5% à 26,58€. Sopra Steria, moins 5% aussi, après la baisse du résultat net du groupe de services informatiques à 106 millions d'euros. L'énergie en repli, très net. Veolia, moins 4%. Engie, moins 4% aussi à 12€, après une baisse de 21% de son bénéfice opérationnel à 4,6 milliards d'euros. Et puis donc, le secteur aéronautique, encore très lourd. Airbus, moins 3%, 95,91€. Et Safran, moins 2,6%, 113,25€ ce soir.
Exception du jour, Saint-Gobain, qui a progressé après l'annonce de ses résultats financiers.
Plus 3%, oui, ça se passe bien. Pour Saint-Gobain, ça se passe mieux. 44,42€ ce soir, après des résultats résistants en 2020, surtout au second semestre, avec un résultat d'exploitation en hausse de 15,8% à plus de 2 milliards d'euros, ce qui laisse une marge d'exploitation de 10% du chiffre d'affaires au second semestre. Donc, belle progression et Saint-Gobain en profite pour remonter de 3% à 44,42€ à la clôture. Sur les autres places financières, ça baisse donc un petit peu partout. Hein. Francfort, moins 0,6%. Bruxelles perd plus de 2%. Madrid, 1,1%. Milan, moins 0,9%. Londres, moins 2,1%. Le CAC 40 est en baisse donc ce soir d'1,39%, 5703 points.
Merci beaucoup Didier Hamot de boursier.com et à lundi Didier. 22h20 sur Europe 1, on passe à l'interview écho. Emmanuel Dutheil, c'est à vous.
Bonsoir Christophe Lecourtier.
Bonsoir.
Vous êtes le directeur général de Business France. Business France, c'est notre organisme qui est chargé de vendre la France à l'international et de donner envie aux investisseurs internationaux de venir en France. C'est avec cette deuxième casquette que nous vous invitons ce soir, puisque le baromètre de l'attractivité pour l'année 2020 est paru ce matin. Est-ce qu'on pourrait le résumer ainsi, Christophe Lecourtier ? C'est pas très bon, bien évidemment, mais ça aurait pu être bien pire. Et la France, finalement, s'en sort presque mieux que ses principaux concurrents.
Oui, oui, je crois qu'on peut dire ça. On a eu tous ces derniers mois une avalanche de mauvais chiffres économiques, hein, pas simplement en France, en Europe et ailleurs dans le monde. Et on était évidemment très attentifs à voir ce que ça allait donner en matière d'attractivité, c'est-à-dire combien de nouveaux projets d'investissement étrangers et combien d'emplois serait venu en France en 2020. Et de ce point de vue-là, comme vous dites, la surprise est plutôt bonne.
Elle est bonne puisque je crois qu'on a créé près de 35 000 emplois grâce aux investissements étrangers en France.
Exactement. On a un peu moins de projets que l'année dernière, que l'année 2019, qui avait été la meilleure année du siècle. Mais en termes de création d'emplois, et c'est finalement ça qui compte, c'est ça qui est concret, c'est la deuxième meilleure année depuis 10 ans.
C'est-à-dire que malgré la crise, 2020 est la deuxième meilleure année en 10 ans des investissements étrangers.
Exactement, depuis 2010, en termes de création d'emplois. Donc c'est mieux que résister, c'est la preuve que finalement les fondamentaux de l'attractivité de la France, c'est-à-dire les raisons pour lesquelles un étranger a envie de créer une entreprise ici ou d'accroître ses capacités de production, elles demeurent non touchées, ou en tout cas elles demeurent fortes, malgré la crise sanitaire.
Alors, est-ce qu'on ne peut pas voir cette fois peut-être le verre à moitié vide ? Parce que 2020 vient après une très bonne année 2019. Est-ce que finalement, ce n'est pas des projets qui étaient déjà lancés, qu'on pouvait difficilement arrêter et qui, du coup, ont créé de l'emploi ? Et c'est cette année où ça pourrait être très compliqué parce que là, tout le monde a mis un frein sur les investissements l'année dernière.
Alors, c'est certainement vrai d'une certaine mesure, dans une certaine mesure que des projets déjà engagés n'ont pas été arrêtés, mais ils auraient pu l'être. Hein, quoi. Rappelez-vous encore une fois la situation dans laquelle on s'est trouvé tous lors du premier confinement. Mais je pense en revanche que l'année 2021 va bénéficier d'un nouveau souffle très important pour les investisseurs, qui est celui du plan de relance national. Je m'explique. Hein. Il y a dans le plan de relance national une volonté de relocaliser et de développer des activités stratégiques en France, hein, dans la santé, dans l'énergie, dans l'industrie en général.
Et ça, vous sentez que ça prend, que les investisseurs étrangers se saisissent de ces dispositifs ?
Alors, c'est ce qu'on est en train de faire. Hein, le président de la République, le gouvernement, Franck Riester, les ministres et nous-mêmes, on est aujourd'hui tous partout sur le pont pour expliquer aux investisseurs étrangers qu'ils ont toute leur place dans ce
Mais
projet.
Mais prenons votre exemple à vous de Business France. Hein, je le disais, l'une de vos missions, c'est de donner envie aux investisseurs étrangers de venir investir chez nous. À ce titre-là, vous avez des bureaux dans les grands pays du monde. Vous rencontrez les investisseurs là-bas, en Chine, aux États-Unis, en Grande-Bretagne, en Allemagne ou autre, vous avez le sentiment que le plan de relance est un élément déterminant ou pour le moment, on en est à la plaquette de prospection ?
Oui, tout à fait. On a l'impression, d'une part, que les fondamentaux, c'est-à-dire que ce qu'ils avaient apprécié en France ces dernières années, ils n'ont pas changé d'opinion à cet égard. C'est déjà très important. La perception reste favorable. Et on a une nouvelle histoire à leur raconter, qui est celle du plan de relance, en disant il y a 100 milliards sur la table, dont à peu près les deux tiers qui sont directement liés à des secteurs industriels, à des aides pour relocaliser des activités, venaient contribuer à cette transformation de l'économie française. Il n'y a jamais eu autant d'opportunités et autant de moyens de la part de l'État pour vous faciliter la vie si vous souhaitez venir participer à cette grande aventure. Donc pour nous, on capitalise à la fois sur ce qui était nos atouts et qui n'ont été finalement que légèrement érodés par la crise, mais on a un second souffle, on a un moteur supplémentaire pour les faire venir, qui est le plan de relance français, qui lui-même s'intègre dans un plan de relance européen qui va quand même fortement relancer et soutenir l'activité en Europe dans les prochaines années.
Quels sont les secteurs qui intéressent le plus ? La santé, l'énergie, je crois que c'est ça qui ressort de l'année 2020 et vous pensez que ce seront encore les ressorts de 2021 ?
Bien entendu, hein. On voit d'ores et déjà qu'on a une augmentation de 40% des projets dans la santé. Hein. Par exemple, une entreprise suédoise va produire en France, d'ici quelques semaines, le vaccin de Moderna. Hein. Et ça s'est passé en 2020. Il y a évidemment des activités en matière de production de masques, de gants, de choses comme ça, qui se sont aussi développées. Mais il y en a plus à venir parce que la France souhaite récupérer des éléments de souveraineté dans ce domaine ô combien stratégique qu'on a perdu. Et donc, on a vraiment un tapis rouge pour les entreprises françaises ou étrangères qui viendront dans ce domaine. C'est la même chose pour toutes les entreprises qui contribuent à la transition écologique. Hein. On veut vraiment, et on s'en est donné les moyens, être un leader dans la transformation écologique. Ça veut dire que tous les...
On s'en est donné. On est en train peut-être de s'en donner les moyens. Ce n'est pas encore très majeur pour le moment.
Hein. Ah bah, y a quand même 30 milliards dans le plan de relance,
oui,
à peu près.
Mais 30 milliards inscrits, c'est loin d'être dépensé encore. Vous le savez mieux que moi.
C'est sûr. Bah, ça ne se fait pas en 6 mois. Mais en même temps, on a vraiment identifié ce sujet comme une priorité. Et pour la première fois, ce n'est pas juste une incantation aux industriels d'aller dans la transition écologique. Ce sont des moyens qu'on leur donne pour pouvoir transformer eh bien, la manière dont ils se chauffent, la manière dont ils produisent, la manière dont ils émettent pour aller vers des solutions.
Ce que vous voulez dire, c'est que la France, d'après vous, est au-delà du plan de relance, au-delà de nos atouts naturels, bien positionnée sur les marchés qui intéressent pour demain les investisseurs internationaux.
Exactement. Et nous pensons que du coup, nous en avons sous le pied, si je puis dire, pour garder une place importante, flatteuse en matière d'attractivité et faire de 2021 et des années à suivre également de bonnes années.
Eh bien, c'est tout le mal que nous nous souhaitons. Merci beaucoup en tout cas, Christophe Lecourtier, directeur général de Business France, d'avoir été notre invité ce soir. Nous, on se retrouve lundi 22h20.
Merci beaucoup, Emmanuel Duteil. On vous retrouvera également lundi à 13h dans La France Bouge avec Elisabeth Assayag pour une émission bilan des vacances au ski qui n'est pas finalement si terrible qu'annoncée grâce aux réservations de dernière minute.
C'était l'invité éco avec la qualité de la 5G Bouygues Télécom.
Europe 1. Restez avec nous dans un instant, on va découvrir ensemble les unes de la presse de demain et on terminera avec le foot et le Stade Rennais qui est mené pour l'heure à domicile face à l'OGC Nice. A tout de suite sur Europe 1.
La libre antenne d'Europe 1 est à votre écoute dans quelques instants. La libre antenne, c'est votre moment d'écoute, de partage et de confidence.
Pour joindre Sabine Marin, appelez dès maintenant le 3921, 50 centimes la minute.
A tout de suite sur Europe 1.
Europe 22h28 sur Europe 1. Jetons maintenant un œil aux unes de la presse de demain. Ça va être bref, vu que la plupart des rédactions n'ont pas encore terminé leur bouclage. 2022, j'ai déjà fait barrage. Cette fois, c'est fini. Voilà le titre à la une de Libération, avec pour illustration un face-à-face entre Marine Le Pen et Emmanuel Macron. Libé est allé à la rencontre d'électeurs de gauche qui redoutent la finale annoncée par les sondages pour la présidentielle. Et pour beaucoup d'entre eux, pas question de revoter pour le président, même s'il fait face au second tour à la candidature du Rassemblement National. Ces électeurs-là resteront chez eux, même si le fascisme a une chance de passer, écrivent Dove Alphon. La raison principale, un chef de l'État de plus en plus ancré à droite et qui, selon ses électeurs, les méprise, alors que ce sont eux qui l'ont porté à l'Élysée. Ouest France s'intéresse pour sa part aux défis majeurs pour inventer l'agriculture de demain. Bien-être animal, environnement, le monde agricole fait face à de nombreuses problématiques et pour les relever, il va falloir vite attirer des jeunes et pour cause, la pyramide des âges est loin d'être favorable dans les fermes. 55% des agriculteurs ont plus de 50 ans, à lire donc demain dans Ouest France.
C'était les unes du lendemain avec la qualité de la 5G Bouygues Télécom.
Europe Soir,
le 22-22-30,
Julien Pire.